avant le Covid, du temps où on pouvait encore faire la fête, peu encore, mais dans de moindres mesures, 15 jours avant Noël, et c'était justement pour s'y préparer, il y avait le troisième dimanche de l'Avent, qui est le dimanche de la joie. Et le troisième dimanche de l'Avent, le prêtre est habillé en rose, tout en rose, avec des ornements roses. J'ai une très belle chasuble rose, rose bonbon, elle est magnifique. Et je proposais alors aux paroissiens de venir également avec un vêtement rose, une sorte de messe à thème, c'est assez sympa. Mais surtout, je mettais dans la crèche, pour les bougies de l'Avent, je mettais dans la crèche des bougies parfumées à la rose. Et au début de la messe, je faisais le rite de l'aspersion avec de l'eau de rose. T'es génial. T'es vraiment... C'était extra. On se serait cru. Vous savez, dans l'Évangile, il y a cette scène qu'on appelle l'onction à Béthanie, quand Marie, sœur de Marthe et de Lazare, verse sur les pieds de Jésus un parfum de très grand prix. Et l'Évangile dit, la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un délice. Il y en a un qui proteste, c'est Judas. Parce que Judas, c'est un traître et un rabat-joie. C'est la même chose. Mais c'est ainsi, il faut le rappeler, parce que c'est ainsi que la passion de Jésus a débuté. Elle a débuté par cette onction sainte, par ce parfum, à Béthanie. Béthanie, ça veut dire maison de la tristesse. Vous voyez comme c'est différent de Bethléem, la maison du pain. Voilà une autre odeur agréable, là, le pain frais. Non. Il y a un peu trop tôt pour y penser. Mettez ça de côté. Et puis, c'est comme ça que la passion de Jésus a commencé, et c'est comme ça qu'elle s'est terminée au matin de Pâques, quand les saintes femmes ont rassemblé toutes les aromates, les huiles les plus précieuses. Vous pouvez imaginer toutes les odeurs qui se dégageaient, et qu'elles sont allées en toute hâte au petit matin au tombeau. Mais Jésus était ressuscité. Ici, j'ai de l'encens à la rose. Mais comme on est dans une église basse, on est un peu nombreux, j'hésite toujours, non, je ne l'ai pas utilisé. Mais c'est mon rêve quand même, c'est de déposer Jésus dans la crèche, dans un grand nuage odoriférant. Pour dire à la fois le sacré, la grandeur de ce que nous célébrons, de la nativité du Seigneur. Pour dire effectivement ce que nous appelons l'odeur de sainteté. Cette odeur de sainteté emplisse nos narines, nos esprits et nos cœurs. Et il faut se souvenir de tous les phénomènes survenus au long de l'histoire, de toutes les manifestations d'un nombre de saints et de saintes. Saint Padre Pio, chaque fois qu'il apparaissait quelque part avec une odeur très particulière de violette. Sainte Rita, quand elle a remis son âme à Dieu, tout le couvent a été rempli d'une odeur phénoménale, extrêmement agréable. Comme il n'y a pas longtemps, on a fêté Notre-Dame de Guadeloupe avec ses roses en plein hiver que Saint Jean Diego, libre dans sa tête. Il est allé chercher là, sur la montagne. Il y a toutes sortes, les grâces, les puits de roses de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, toutes ces manifestations à travers l'histoire. L'odorat. L'odorat, c'est un des premiers sens que nous développons dans le ventre de notre mère. C'est pas le premier. Le premier, c'est le toucher. Et le toucher, on estime que c'est juste autour de la bouche du petit bébé, de l'embryon. C'est vers la 7e semaine de grossesse. C'est assez rapide. Vers la 7e semaine de grossesse, vous pouvez calculer. Jésus, conçu du Saint-Esprit, nous le fêtons le 25 mars. 7e semaine, ça veut dire en mai. En mai, il embrasse Marie. Voilà. Première manifestation sensible. Et Marie, comme toutes les autres mamans, ensuite, régulièrement, elle se rend compte que son bébé vibre quand elle touche son ventre, quand elle caresse son enfant, quand elle caresse son bébé. Mais avant, à partir de la 8e semaine, l'odorat est apparu. L'odorat est apparu avec les récepteurs des odeurs, la zone du cerveau qui reçoit l'information, les cellules nerveuses qui permettent d'analyser ses sensations. Tout ça se met en place de façon très progressive, prodigieuse. Les narines du bébé, de l'embryon, les narines du bébé, ne s'ouvrent qu'au 4e mois de grossesse. Calculé, 25 mars, c'est le 15 août pour Jésus. Le 15 août, nous fêtons l'Assomption. Le 15 août, les narines de Jésus bébé dans le ventre de Marie s'ouvrent. Et le liquide amniotique circule alors dans le nez du bébé. Mais il faut attendre quelques semaines, et c'est plutôt vers le 7e mois, c'est en octobre. Octobre, c'est le mois du rosaire. C'est en octobre que Jésus fait en Marie, dans le sein de Marie, ses premières expériences olfactives. Ces premières expériences que nous avons toutes faites dans le ventre de notre mère et qui ont influencé, qui influencent toute notre vie, qui viennent évidemment de l'alimentation de notre mère, de la maman, qui passe dans le sang, le placenta, le liquide amniotique. Vous pouvez, avec certitude, Jésus l'a senti, c'est la cuisine méditerranéenne, l'ail, le cumin, le fenouil, la figue. Bon, on met de côté ce que Marie ne prenait pas. Pas de pastis, ni ouzo, ni ara, quel que soit comment on l'appelle. Non, pas de café ni thé, rien d'excitant, pas d'alcool, bonne nourriture. Ce qui fait qu'à la naissance, l'odorat du bébé, il est prêt, il est au taquet. Et sa sensibilité aux odeurs, elle va se développer de façon extrêmement rapide, d'heure en heure. Et le bébé reconnaît tout de suite, sans se tromper, les odeurs du cou et bien sûr des seins de sa maman. Il les reconnaît entre toutes les femmes, la Vierge Marie. Et puis bien sûr, le lait, son lait qui a l'odeur de l'amour et de la vie. Et puis il n'y a pas que Marie, il y a Joseph. On peut l'imaginer, Joseph a pris Jésus dans ses bras comme tout papa. Il l'a serré tendrement contre lui, ils se sont sentis tendrement. Et puis le texte dit que Marie a emmailloté Jésus dans un linge, certainement un linge frais qu'elle tenait à part, qu'elle avait préparé. Rappelez-vous la transfiguration avec ce blanc. L'Évangile dit que personne ne peut en avoir un blanc pareil sur terre. Elle l'a couché ensuite dans la mangeoire, c'est-à-dire sur la paille. L'odeur de la paille va l'accompagner toute sa vie. Chaque moisson, chaque champ de blé traversé va le ramener en ce jour béni. L'odeur de la paille, la promesse de la vie, et toutes ces phrases qui reviennent dans l'Évangile, « Si le grain de blé ne meurt, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Priez le maître de la moisson, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. C'est le soir, mes amis. C'est le soir de Noël, mes amis. C'est le soir pour nous souvenir des odeurs de notre enfance. Celles dont nous ne sommes même peut-être pas conscients, que nous avons éprouvées au sein même de notre mère, qui sont revenues, qui nous accompagnent toute notre existence. Mais aussi les odeurs de Noël, la nuit de Noël, du repas, le sapin. Vous avez peut-être un sapin chez vous. Le feu, toutes ces odeurs de fête. Connaissez cette phrase de Baudelaire, « Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir, valse mélancolique et langoureux vertige. » C'est un poème de Baudelaire qui s'appelle « Harmonie du soir ». On pourrait l'appeler même « Harmonie de Noël » parce que la toute fin, le dernier quatrain, même le dernier vers est prodigieux. Il dit « Un cœur tendre qui déteste le néant vaste et noir, du passé lumineux recueille tout vestige. Le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige. Ton souvenir en moi, lui, comme un ostensoir. » Oui, Seigneur, ton souvenir en moi, lui, comme un ostensoir, resplendit comme Jésus hostie. Voilà l'espérance de la vie éternelle. Voilà l'espérance qui va au-delà de toute nostalgie, de tous les souvenirs que nous pouvons avoir. Au ciel, le chant des anges sera incomparablement plus beau que celui de la nuit de Noël. Il y aura pour beaucoup d'entre vous, pour beaucoup pour qui cette fête de Noël peut être amère, douloureuse, peut être pénible, il y aura la Vierge Marie, sa tendresse. Il y aura une parole, une caresse de consolation pour pouvoir entrer paisiblement là-dedans, pour pouvoir sécher les larmes, apaiser notre peine. Mais nous aurons surtout la synthèse de toutes les sensations, toutes les meilleures odeurs de notre vie. Tout ce que nous avons vécu, connu de plus remarquable, de plus délicieux. Vous savez que dans l'Ancien Testament, la tradition disait de la manne au désert, Les rabbins se sont interrogés successivement pour savoir quel goût ça avait. Et puis ils ont fini par s'accorder sur le fait que, ils ont dit, la manne au désert, elle avait pour chacun le goût qu'il aimait, qu'il préférait. C'est beau ça, le goût qu'il aimait. Nous, notre foi nous dit que nous ressusciterons âme et corps, et nos sens seront sublimés quand nous verrons le visage du bien-aimé. Voilà le bonheur de Noël, voilà ce qui nous réunit, voilà notre foi, si forte, si importante, si essentielle dans un monde bouleversé, secoué, désemparé, parfois où nous sommes perdus, où nous bénéficions autant que nous sommes effectivement un peu surpris, saturés de technique et de technicité. Il faut rendre hommage aux ingénieurs, aux chercheurs, aux inventeurs, rendre hommage aux constructeurs, grâce à qui, justement, tous ces progrès. Nous pouvons transmettre les sons depuis des dizaines et dizaines d'années, la téléphonie, c'est génial. Nous pouvons transmettre les images. Bon, transmettre les images plus que la télévision, Internet aujourd'hui. Et qui sait même l'évolution de la 3D. Peut-être que dans un avenir pas si lointain, vous ne viendrez plus. Vous me téléphonerez, enfin me téléphonerez, vous me mettrez un message et je viendrai en hologramme pour la messe de Noël chez vous. C'est pas un bon plan, ça? C'est autrement plus pratique. Allez, le curé en hologramme. La messe de Noël à la maison. Mais est-ce que vous pourrez communier? Ou plutôt, à quoi ou à qui nous pourrions alors communier? Est-ce que vous pourriez alors toucher Jésus et surtout vous laisser toucher par l'enfant de la crèche, le Fils de Dieu, Dieu fait enfant, qui est lui-même le ressuscité? Mets ta main dans mon côté, ne sois pas incrédule, sois croyant, touche, touche, dit le Seigneur le jour de Pâques à ses disciples. Il leur a demandé quelque chose à manger. Peu importe les sentiments, les sensations qu'ils avaient. Ils ont été bouleversés. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont été bouleversés? Eh bien, il suffit de reprendre le prologue de la première lettre de Saint Jean. Ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, et que nos mains ont touché du verbe de vie, nous vous l'annonçons, la vie s'est manifestée, la vie éternelle qui était auprès du Père. Ce que nous avons vu, entendu, nous pourrions ajouter, touché, senti, côtoyé, nous vous l'annonçons pour que vous soyez en communion avec nous. Nous sommes en communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, et nous vous l'annonçons pour que votre joie soit parfaite. C'est cela la joie de Noël. Le Christ Jésus présent. La joie parfaite.